Alors, il me manque juste le badge, là. Plusieurs m'ont fait remarquer ce matin que j'étais bien habillé. On m'a pas dit pour une fois, donc ça... C'est parce que c'est pour un sondage. En novembre 2008, j'ai pas trouvé de données plus récentes, TNS Sofres a publié un sondage concernant Jésus dans le magazine Pèlerin. Sur un échantillon de 970 personnes de 18 ans et plus, 35% des personnes interrogées pensaient que Jésus est le Fils de Dieu. Venait ensuite comme réponse un prophète, 21%, un homme comme les autres, 17%, un mythe, 15%, un gourou, 3%, un doux rêveur, 2%, un héros, 2% également. L'identité de Jésus ne cesse de diviser l'opinion publique, et cela fait 2000 ans que ça dure, au moins. Et déjà à son époque, des questions se posaient au sujet de Jésus. Ce matin, nous allons reprendre l'évangile selon Marc, là où nous l'avions laissé avant l'été, au chapitre 8. Je vous invite à ouvrir vos Bibles ou votre smartphone pour trouver l'évangile selon Marc, chapitre 8. Notre texte de ce matin et celui de la prochaine prédication sur Marc constitue le tournant de l'évangile selon Marc. Avant l'été, nous avions terminé la première grande partie de cet évangile qui concernait le ministère de Jésus en Galilée. Quelques petits rappels. Depuis le début de son évangile, Marc nous dit qui est Jésus. Il nous révèle son identité dès le tout premier verset de ce livre. Il nous dit « Évangile », ça veut dire « bonne nouvelle », de Jésus. De Jésus, c'est à la fois la bonne nouvelle annoncée par Jésus, mais aussi la bonne nouvelle qui concerne Jésus, au sujet de Jésus. Donc, « Évangile de Jésus », le Christ, Christ ça veut dire Messie, roi, celui qui était attendu par le peuple de Dieu. Évangile de Jésus, le Christ, le Fils de Dieu. Marc 1, verset 1. Comme dans la série télé Columbo, où l'on connaît le coupable dans les 5 premières minutes de chaque épisode, de même, Marc nous révèle d'emblée qui est le personnage principal de son récit, avant de nous aider à comprendre pourquoi Jésus est, non pas le coupable d'une intrigue policière, mais le Christ, le Fils de Dieu. Et tout au long de ces 8 premiers chapitres de l'Évangile, Marc nous démontre, par petites touches, que ce Jésus est bien ce qu'il dit qu'il est. Alors, ce qui est étonnant, c'est que Jésus ne le dit pas clairement. Il ne débarque pas un beau jour en disant « Coucou, je suis le Messie, le Fils de Dieu ». Il se serait certainement fait lapider pour blasphème. Il est bien le Christ, le Fils de Dieu. Mais à chaque fois que quelqu'un s'approche de cette vérité, ou qu'un démon, par exemple, dévoile trop vite cette vérité, alors Jésus se fâche, les reprend sévèrement, afin que son identité reste en partie cachée. Or, pour la première fois dans notre texte d'aujourd'hui, et c'est ce qui en fait le tournant de l'histoire, Jésus va parler ouvertement, clairement, sans censure. Écoutons donc ce qu'il dit et les réactions qu'il suscite. Écoutons ce qu'il nous dit ce matin. Et quel appel il lance à chacun d'entre nous pour cette semaine. Je vous invite à lire donc Marc chapitre 8 à partir du verset 27. Et nous lirons jusqu'à la fin du chapitre au verset 38. Marc 8, verset 27 à 38. Je lis dans la version du Semeur. Jésus s'en alla, accompagné de ses disciples, et se rendit dans les villages autour de Césarée de Philippe. En chemin, il interrogea ses disciples. « Que disent les gens à mon sujet? Qui suis-je, d'après eux ?» Ils lui répondirent, « Pour les uns, tu es Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, un des prophètes. » Alors Jésus leur demanda, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Pierre lui répondit, « Tu es le Messie. » Il leur ordonna de ne le dire à personne. Et il commença à leur enseigner que le Fils de l'homme devait beaucoup souffrir, être rejeté par les responsables du peuple, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi. Il devait être mis à mort et ressuscité 3 jours après. Il leur dit tout cela très clairement. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et reprit Pierre sévèrement en disant « Arrière, Satan, éloigne-toi de moi, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées toutes humaines. » Là-dessus, Jésus appela la foule ainsi que ses disciples et leur dit « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Si un homme parvenait à posséder le monde entier, à quoi cela lui servira-t-il s'il perd sa vie? Et si quelqu'un a honte, verset 37, et que peut-on donner pour racheter sa vie? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu des hommes de ce temps qui sont infidèles à Dieu et qui transgressent sa loi, le Fils de l'homme, à son tour, aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Jusque-là, notre lecture de ce matin, nous allons méditer ce texte en 3 temps. Premier temps que j'ai intitulé « Le sondage d'opinion ». Deuxième temps, la réalité derrière les sondages. Troisième temps, l'opinion qui sauve. Premier point, sondage d'opinion. Jésus quitte la Galilée pour se rendre dans le nord d'Israël, à Césarée de Philippe. Jésus fait le voyage à pied, il n'y avait pas de train à l'époque, avec ses disciples, et il profite de l'occasion pour faire avec eux un point sur les derniers sondages d'opinion le concernant. Verset 27, « Les gens, qui disent-ils que je suis ?» Alors, les disciples sortent leurs petites fiches et les dernières analyses chiffrées recueillies auprès d'un échantillon de 1000 Israélites âgés de 20 à 60 ans. Alors, ce que je dis là, je l'invente, hein, c'est pas dans le texte, n'est-ce pas? Donc, 25% des personnes interrogées ont répondu Jean-Baptiste. Alors, on leur a pas demandé pourquoi, mais je vous rappelle que Jean-Baptiste est mort. Peut-être pensait-il, comme Hérode Antipas, on avait lu ce texte à Marc chapitre 6, que Jean-Baptiste était ressuscité. Jésus est une sorte de réincarnation de Jean-Baptiste. 34% des personnes interrogées ont répondu « Élie », le prophète qui avait vécu vers 850 avant Jésus-Christ. Alors lui, il ne peut pas être ressuscité parce qu'officiellement, il n'est pas mort. Il est parti au ciel dans un chariot de feu. Et certains pensaient qu'il devait revenir avant la venue du Messie, selon la prophétie de Malachie chapitre 3, que vous pourrez relire à la maison. 21% des personnes interrogées ont répondu « un des prophètes ». Probablement parce que Jésus, dans son ministère, reprend en partie l'activité des anciens prophètes. Jésus appelle à la repentance, Jésus raconte des paraboles, Jésus fait des miracles. Enfin, 20% des gens ne se prononcent pas. Ça aussi, c'est moi qui l'invente. Une fois l'analyse des sondages terminée, Jésus demande alors à ses disciples « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Jésus passe de « les gens, quelle est leur opinion ?» à « vous, quelle est votre opinion ?» Et là, 8% des personnes interrogées, un des apôtres sur les 12, Pierre, disent « Toi, tu es le Christ, le Messie. » Et alors, Jésus refait à ses disciples le coup de « Vous avez raison, mais taisez-vous. » Il leur ordonna de ne le dire à personne. Verset 30. Alors, est-ce que Pierre a compris plus vite que les autres apôtres? Est-ce que Pierre parle au nom des 12 apôtres? Et donc, 100% des 12 personnes interrogées proclament par la bouche de Pierre que Jésus est bien le Messie. Je ne sais pas. Pierre a souvent des intuitions géniales, suivi de décisions ou d'actes tout à fait déplorables. Et on le verra encore dans un instant. Toujours est-il que nous avons ici un élément essentiel dans le récit. c'est le mot Christ, Messie, roi, confessé par Pierre et le groupe des douze. Je dis essentiel parce que c'est seulement la deuxième fois, j'ai vérifié, vous pouvez vérifier aussi, c'est la deuxième fois en 8 chapitres que le mot Christ apparaît. Et la première fois, nous l'avons rappelé tout à l'heure, c'était au tout premier verset de l'Évangile, Marc chapitre 1, verset 1. La réapparition de ce mot Christ confirme donc que nous sommes ici au tournant de l'histoire dans l'Évangile. Mais il ne s'agit pas seulement d'un tournant dans un récit littéraire, c'est aussi un tournant qui concerne la vie de chacun d'entre nous. Cette question que Jésus pose à ses disciples, il nous la pose aussi à nous aujourd'hui, nous qui entendons ses paroles. Qu'est-ce que les gens autour de nous disent sur Jésus ? Nous en avons eu un aperçu avec ce sondage que je citais en introduction. Je ne sais pas quels seraient les chiffres en 2018, 10 ans après le sondage que je citais. Mais Jésus n'en reste pas à des informations générales pour lesquelles nous pourrions nous sentir plus ou moins concernés. Jésus va plus loin et nous demande à nous aussi, et vous, qui dites-vous que je suis ? Qu'est-ce que vous répondez à cette question ce matin ? Qui est Jésus pour vous ? Je vous fais remarquer que dans le sondage que j'ai cité en introduction, si l'on additionne toutes les réponses à part la première réponse « Fils de Dieu », 60% des personnes interrogées ont une mauvaise opinion de Jésus, soit parce qu'elle est incomplète, un prophète, soit parce qu'elle est carrément fausse, un mythe. Qui est Jésus pour vous ? L'apôtre Pierre fait une belle et juste déclaration de foi, n'est-ce pas ? Toi, tu es le Christ. Et certains d'entre nous se retrouvent très bien dans cette déclaration. Mais la suite du récit nous montre que proclamer la véritable identité de Jésus n'est pas suffisant. Encore faut-il comprendre ce que cela veut dire, Christ, Messie. Je passe maintenant au deuxième point de cette prédication, la réalité derrière les sondages. Je relis avec vous les versets 31 et 32. Alors Jésus commença à leur enseigner que le Fils de l'homme devait beaucoup souffrir, être rejeté par les responsables du peuple, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi. Il devait être mis à mort et ressuscité 3 jours après. Il leur disait tout cela très clairement, ouvertement. Marc nous dit que Jésus commença à enseigner cela à ses disciples. Cela veut dire que c'est nouveau. Jésus n'avait pas encore parlé de cela avec ses disciples dans un enseignement particulier. Quel est le contenu de ce nouvel enseignement ? C'est que le Fils de l'homme devait beaucoup souffrir, être rejeté par les responsables du peuple, mis à mort et ressuscité 3 jours après. Notez que Jésus ne reprend pas à son compte le titre de Messie que Pierre vient juste de confesser. Il utilise l'expression « fils de l'homme » qu'il a déjà utilisée plusieurs fois dans les chapitres précédents. C'est une expression un peu mystérieuse qui fait allusion à la fois à l'humanité et à la divinité de Jésus, en référence au passage du prophète Daniel chapitre 7. La formule « fils de l'homme » n'est donc pas nouvelle pour les disciples. Ce qui est nouveau, c'est que Jésus annonce ses souffrances et sa mort. Et ça, c'est une réalité dont les disciples n'avaient pas conscience jusque-là, et qu'ils vont mettre du temps à comprendre et à accepter. Derrière la façade des sondages d'opinion, qui donnent certains éléments de la réalité, de ce que croient les gens, il y a une réalité plus complexe et souvent plus difficile à accepter. Oui, Jésus est bien le Messie. Il ne dit pas à ses disciples qu'ils n'ont rien compris. Il leur dit « ne le dites à personne ». Jésus est donc d'accord avec la déclaration de foi de Pierre. Toi, tu es le Messie. Mais Jésus emmène ses disciples plus loin. Vous pensez que je suis le Messie ? D'accord. Mais quel Messie ? Quel est le but de ma mission ? Pour quelle raison suis-je venu ? Vous pensez que je suis roi ? Christ, ça veut dire roi. D'accord. Mais quel roi? De quel royaume? Pensez-vous que je sois venu renverser l'Empire romain et restaurer le royaume d'Israël? Non. Mon royaume n'est pas de ce monde. C'est ce que Jésus dira à Pilate lors de son procès. Un jour, tous les rois de la terre se prosterneront devant moi, mais pas maintenant. Voyez-vous, le Messie qui devait venir est d'abord un Messie souffrant, rejeté et condamné à mort qui devait ensuite ressusciter. Alors j'ai reformulé les paroles de Jésus d'une autre manière, mais c'est cela que Jésus enseigne clairement à ses disciples. Il leur enseigne que le Messie, tel que Pierre le déclare, le sauveur tant attendu, n'est pas forcément le sauveur qu'on imaginait, un libérateur politique par exemple. Le Messie est d'abord venu mourir pour nos péchés et ressusciter pour que nous puissions nous aussi échapper à la mort éternelle. Eh bien, ce Messie-là, les disciples ne l'acceptent pas. Regardez la réaction de Pierre, encore lui. Verset 32, la deuxième partie du verset. Alors Pierre prit Jésus à part et se mit à lui faire des reproches. Mais Jésus lui tourna le dos, se retourna, regarda ses disciples et reprit Pierre sévèrement. « Arrière, Satan, éloigne-toi de moi, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Dans le texte original en grec, on retrouve dans la démarche de Pierre les mêmes mots que Jésus a employés dans les versets précédents. Écoutez bien. Nous avons lu au verset 31, ouais, regardez de nouveau le verset 31, Jésus commença à leur enseigner. D'accord ? Eh bien, au verset 32, le texte grec dit, c'est pas toujours rendu comme ça dans nos traductions françaises, alors Pierre commença à lui faire des reproches à Jésus. Jésus commença à les enseigner, à leur enseigner. Pierre commença à lui faire des reproches. Deuxième remarque, le verbe qui est traduit dans nos versions françaises par « faire des reproches », c'est le même verbe en grec que Jésus utilise quand il ordonne à ses disciples de ne pas révéler son identité, au verset 30. Il leur ordonna de ne le dire à personne. Et bien maintenant, c'est Pierre qui ordonne à Jésus, qui donne des ordres à Jésus, qui lui fait des reproches. Troisième remarque, là ce n'est pas le même mot, mais une démarche qui arrive en contradiction avec celle de Jésus. Jésus venait, peut-être pour la première fois, de parler à ses disciples clairement, ouvertement, et qu'est-ce que Pierre fait ? Il prend Jésus à part, en privé, aux cachettes. Tout cela nous aide, j'espère, à comprendre la vive réaction de Jésus au verset 33. « Arrière, Satan, éloigne-toi de moi, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » On pourrait se demander ce que Satan vient faire ici. Mais en regardant l'attitude de Pierre, avec les mots du texte, comme nous venons de le faire, cela devient évident. Satan, le diable, c'est l'adversaire avec un grand A, celui qui s'oppose à Dieu et à ses projets. Satan, c'est celui qui cherche à nous faire trébucher, à nous faire dévier de notre appel chrétien pour nous éloigner de Dieu. Satan, c'est celui qui cherche sa propre gloire contre la volonté de Dieu. Eh bien, que fait Pierre ici ? Pierre, l'apôtre, Pierre, le disciple que Jésus a appelé pour qu'il le suive, et qui a répondu favorablement à cet appel, Marc chapitre 1. Eh bien, Pierre s'oppose à Jésus. Jésus dit clairement à ses disciples que son chemin, sa mission, va passer par la souffrance et la mort. Eh bien, Pierre se met en travers de son chemin. Pour lui barrer la route, pour le faire dévier de sa mission, pour lui dire « Moi, je vais t'expliquer comment les choses vont se passer ». Ce genre de Messie-là, qui va souffrir et mourir, ça ne plaît pas du tout à Pierre. Il n'a pas signé pour ça. Il n'est pas satisfait, il demande à être remboursé. Alors, il ne faut pas imaginer ici le diable en train de piquer Pierre avec sa fourche. Le diable est présent dans la mentalité, dans la démarche de Pierre, qui vient faire obstacle à Jésus pour le faire trébucher. Et la réaction de Jésus me semble confirmer cette lecture du texte. Remarquez que Jésus se retourne. C'est la première chose que Marc nous dit. Jésus tourne le dos à Pierre. Pourquoi ? Je vois au moins trois raisons. La première, c'est que Pierre a pris Jésus à part. Le diable aime ce qui se fait dans les ténèbres. Eh bien, Jésus tourne le dos à Pierre et reprend la parole clairement, ouvertement, devant le groupe des disciples. Marc nous dit, il regarde ses disciples. On retourne dans la clarté, dans la lumière. Deuxième raison, en tournant le dos à Pierre, Jésus rejette sa démarche et sa mentalité. Notez que Jésus s'adresse à Satan, arrière Satan. Pierre n'est pas innocent dans l'affaire, mais Jésus s'adresse à celui qui, à ce moment même, tente Pierre pour faire échouer la mission de Jésus. Troisième raison, en tournant le dos à Pierre, Jésus tourne le dos à l'obstacle qui lui est tendu, au piège qui lui est tendu, Pierre qui se dresse sur son chemin. Et en tournant le dos à Pierre, Jésus lui indique qu'il va reprendre sa route devant lui. Et Pierre doit reprendre sa place de disciple derrière son maître. Or Pierre, en prenant Jésus entre quatre yeux pour lui faire des reproches, a renversé l'ordre des choses. Pierre est devenu le maître et Jésus est devenu l'élève sermonné par le maître. Et pour la troisième fois, en quatre versets, on retrouve le verbe « ordonner » au verset 33. S'étant retourné et regardant ses disciples, Jésus reprit sévèrement, littéralement, ordonna à Pierre ou rappela Pierre à l'ordre. On a donc avec le même verbe la séquence suivante. Premièrement, Jésus ordonne à ses disciples de ne pas dévoiler son identité, verset 30. Ensuite, Pierre ordonne à Jésus de revoir sa copie, verset 32. Et enfin, Jésus ordonne à Pierre de reprendre sa place de disciple derrière lui. C'est fort ce qui se passe dans ce texte, n'est-ce pas ? Et nous ? Où en sommes-nous ? À la fin du premier point de cette prédication, nous en étions restés à la question de Jésus. Et vous ? Qui dites-vous que je suis ? Et en avançant dans le texte, nous voyons que derrière les sondages d'opinion, la réalité est plus complexe. Il ne suffit pas de dire qui est Jésus, même de dire que Jésus est le Fils de Dieu, comme 35% des personnes interrogées, pour démontrer qu'on a compris qui est vraiment ce Jésus, ce Christ, ce Messie. Jésus nous le dit ici, et dans le reste de l'Évangile et du Nouveau Testament. Jésus est-il venu enseigner ? Oui. Jésus est-il un prophète ? Oui. Mais tout cela est au service d'un projet plus large qui consiste à sauver l'homme de la mort et du péché. Le péché, c'est quoi ? Eh bien, c'est exactement l'attitude de Pierre ici, qui est l'attitude et la condition de tout être humain depuis sa naissance. Cette attitude qui consiste à dire à Dieu d'une manière ou d'une autre, « Eh oh, c'est moi qui commande ma vie ». Le péché, c'est quand on renverse l'ordre des choses et qu'au lieu d'adorer Dieu, notre Créateur, en tant que créature, nous voulons dicter à Dieu sa conduite et donc être nous-mêmes Dieu. Le péché, c'est quand on renverse l'ordre des choses et qu'au lieu de suivre le Christ, nous nous mettons en travers de son projet pour nous en lui disant « C'est moi qui décide et toi tu dis Amen ». En remettant les choses dans l'ordre, Jésus garantit la poursuite et le succès de sa mission pour nous sauver. Et tout le monde n'accepte pas cette réalité. Beaucoup préfèrent essayer de gagner leur vie. Attention, ce n'est pas une petite affaire. C'est une question de vie ou de mort. Et nous arrivons à notre troisième et dernier point, l'opinion qui sauve. Relisons ensemble les derniers versets de notre passage, à partir du verset 34. Là-dessus, Jésus appela la foule ainsi que ses disciples et leur dit « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Si un homme parvenait à posséder le monde entier, à quoi cela lui servirait-il s'il perd sa vie ? Et que peut-on donner pour racheter sa vie ? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu des hommes de ce temps, qui sont infidèles à Dieu et qui transgressent sa loi, le Fils de l'homme à son tour aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Ma fille aînée est entrée au collège cette année et la première semaine, elle me raconte qu'un de ses professeurs s'est adressé à la classe le premier jour du cours de la manière suivante. « Si vous me respectez, je vous respecte. Si vous ne me respectez pas, je vous écrase. » Alors, les enseignants parmi nous apprécieront l'intelligence pédagogique et la bienveillance de ces paroles, n'est-ce pas ? Alors j'ai dit à ma fille que si ce genre de menace se reproduisait, elle devait m'en informer immédiatement, parce que son professeur n'a le droit ni de mettre en pratique, ni même de tenir de tels propos à l'égard de ses élèves. Qu'est-ce que Jésus dit à ses élèves, à ses disciples ici ? Il ne menace pas de les écraser. Il leur demande de renoncer à eux-mêmes et de porter leur croix. Qu'est-ce que cela veut dire ? Jésus leur demande-t-il de s'écraser eux-mêmes ? Vous savez, ce qui marche le mieux dans une dictature, c'est quand les gens sont dirigés par la peur au point de s'écraser d'eux-mêmes devant le chef. Est-ce cela que Jésus demande à ses élèves ? Pas du tout. Que signifie donc renoncer à soi-même et porter sa croix ? Avant de répondre à cette question, j'aimerais faire une ou deux remarques. Remarquez d'abord que Jésus parle au singulier. Jésus ne s'adresse pas au groupe des disciples ou à la foule, mais à chaque personne qui désire le suivre. C'est un appel personnel. Pourtant, Jésus parle bien à un groupe. Marc nous dit, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit. Donc Jésus a élargi le cercle de ses auditeurs. Il y avait ses disciples et puis maintenant il appelle la foule en plus. Mais dans cette foule de gens, chacun est interpellé personnellement. Si quelqu'un veut me suivre et pas si vous voulez me suivre. Deuxième remarque. Jésus interpelle chacun sur sa volonté ou non de le suivre. Si quelqu'un veut me suivre. L'appel est personnel, le choix aussi est personnel. Les tyrans parlent fort et menacent pour que les foules suivent leurs ordres. Si vous ne me respectez pas, je vous écrase. Pas de menace avec Jésus. Si quelqu'un veut me suivre, Jésus en appelle à la responsabilité individuelle de ceux qui entendent sa voix. Si quelqu'un... As-tu bien réfléchi ? Les tyrans ne demandent pas aux gens leur avis, ils s'imposent. Si quelqu'un veut me suivre, es-tu sûr que c'est bien ta volonté ? Que tu n'es pas simplement en train de suivre le mouvement de la foule et non ta conviction personnelle ? Les tyrans ne demandent pas aux gens ce qu'ils veulent, ils dictent leur propre volonté. Vous voyez, suivre Jésus, ce n'est pas simplement se laisser porter ou entraîner par un mouvement de foule, même une église. Cela implique une conscience et une responsabilité personnelle. Un choix éclairé que l'on fait en connaissance de cause. Être chrétien, cela n'a rien de sectaire. Jésus ne met pas la pression sur ses élèves. Il les invite plutôt à réfléchir par eux-mêmes, chacun pour leur propre vie. Es-tu sûr que c'est bien ce que tu veux, être mon disciple? Car c'est bien une question de vie ou de mort qui se pose ici. Jésus parle de sauver sa vie ou bien de la perdre. Ce n'est pas seulement une question d'opinion qui ne change pas grand-chose à nos vies. C'est une question d'opinion qui nous sauve ou au contraire qui nous condamne devant Dieu. L'opinion qui sauve, c'est le titre de ce troisième point, c'est aussi le titre de cette prédication, l'opinion et le choix qui sauve. L'opinion qui sauve, c'est celle qui consiste à comprendre vraiment qui est Jésus et ce qu'il a fait, à l'accepter pour soi-même et à vivre en conséquence comme son disciple. C'est pour cela que Jésus prend soin de bien poser les choses, car celui ou celle qui veut le suivre doit avoir conscience de ce que cela implique. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix, et alors qu'il me suive. Voilà l'opinion qui sauve. Et toutes les opinions ne se valent pas concernant le salut. J'en reviens donc à ma question de tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est renoncer à soi-même et porter sa croix? Renoncer à soi-même, cela ne peut pas vouloir dire perdre son individualité dans la foule. Ce serait incohérent par rapport à ce que Jésus dit à chacun individuellement ici. Renoncer à soi-même ne veut pas dire se noyer dans la masse, y compris dans la foule de l'Église, et suivre le mouvement comme un mouton. Mais... au contraire, Jésus s'oppose à cette idée. Renoncer à soi-même, c'est être prêt à vivre en se démarquant de ce que tout le monde pense ou de ce que tout le monde fait. Renoncer à soi-même, c'est renoncer à dicter à Dieu ce qu'il doit faire, comme Pierre, qui fait des reproches à Jésus. Renoncer à soi-même, c'est arrêter de manipuler Dieu pour nous laisser transformer par lui. Porter sa croix, qu'est-ce que cela veut dire? Les criminels condamnés à mort par l'Empire romain devaient porter le poteau en bois sur lequel ils allaient être crucifiés. Et le long du chemin, chemin de croix, qui les séparait du lieu de leur mort, les condamnés passaient à travers la foule qui les insultait, qui leur crachait dessus, à l'occasion les frappait ou se moquait d'eux. Et c'est ce que Jésus subira lui-même dans les derniers chapitres de l'évangile selon Marc. Donc quand Jésus demande à ses disciples de porter leur croix, il leur dit d'être prêt à rencontrer de l'opposition, de la moquerie, des insultes, voire la mort, à cause de lui et de l'évangile. Il demande à ses disciples de l'aimer, lui, Jésus, et la vie qu'il nous donne par sa mort et sa résurrection, plus que les avantages de la vie que nous essayons de gagner par nos propres moyens. On a parfois tendance à élargir l'expression « porter sa croix » à tout un tas de situations que l'on rencontre dans la vie. On dira par exemple « je porte ma croix quand je suis malade » ou bien « je porte ma croix quand je lutte contre tel péché » ou encore « voyez tous mes malheurs, je dois porter ma croix ». Mais ce n'est pas ce que dit Jésus ici. Porter sa croix, ce n'est pas souffrir ou rencontrer des épreuves. Porter sa croix, c'est souffrir ou rencontrer des épreuves à cause de Christ et de l'Évangile, verset 35. Je porte donc ma croix quand je subis des outrages parce que je suis chrétien, pas quand j'ai la grippe ni même un cancer. Il arrive que je vive une épreuve dans ma santé physique, psychologique ou sociale, plus ou moins difficile à vivre. Et Dieu veut m'accompagner de sa grâce dans cette épreuve. Mais ce n'est pas cela, porter sa croix. Porter sa croix, c'est ne pas avoir honte de Jésus et de ses paroles. Verset 38. Alors, si on décline cela de manière pratique, avoir honte de Jésus et de ses paroles, c'est par exemple dresser le poing contre quelqu'un qui nous fait du mal au lieu de tendre l'autre joue. Matthieu chapitre 5. Avoir honte de Jésus et de ses paroles, c'est se dire chrétien et en même temps chercher sans cesse à gagner sa vie par ses propres moyens, sans demander la vie de Dieu, mais en lui demandant quand même de bénir nos projets. Avoir honte de Jésus, c'est penser que sa mort à la croix n'est pas suffisante et que nous devons y ajouter notre part pour être sauvés. Avoir honte de Jésus et de ses paroles, c'est tolérer dans notre vie d'autres enseignements qui vont entrer en concurrence avec lui et nous influencer négativement. Avoir honte de Jésus, c'est avoir honte de témoigner de lui parce qu'on a peur de se démarquer de la foule, d'être moqué, voire persécuté à cause de lui. Avoir honte de Jésus, c'est se laisser entraîner par les autres, parfois par soi-même, à dire ou faire des choses que nous savons contraires à la volonté de Dieu, mais que nous faisons quand même pour ne pas être mal vus. Au travail, par exemple, au lycée. Attention, si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu des hommes de ce temps, de cette génération, qui sont infidèles à Dieu et qui transgressent sa loi, le Fils de l'homme, à son tour, aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Conclusion. D'un sondage effectué par l'Institut de sondage EPEBM le 30 septembre 2018 auprès d'un échantillon de 40 personnes. Ce sondage d'opinion avait trois questions. Question 1, et vous, qui dites-vous que Jésus est ?
Le Christ.
Le Christ, le Fils de Dieu. Question 2, qu'est-ce que cela veut dire ? Quel genre de Messie ? Et Jésus, pourquoi est-il venu ?
Pour sauver. Pour nous sauver.
Il est venu souffrir et mourir pour nos péchés et ressusciter le troisième jour. Question 3. Quel appel nous lance-t-il encore aujourd'hui et comment y répondre ? Appel à le suivre comme disciple ? Comment ? En renonçant à nous-mêmes et en portant notre croix, c'est-à-dire en lui donnant la priorité dans notre vie plutôt qu'à nos intérêts égoïstes. Nous allons prier. Seigneur Dieu, tu sais très exactement où nous en sommes dans notre opinion sur Jésus. Et la manière dont il est impliqué ou non dans notre vie jour après jour. Tu sais si nous nous disons chrétiens ou si nous sommes chrétiens vraiment. Tu connais tout de nous. Ma prière pour cette assemblée, pour moi, pour nous, cette semaine, c'est que tu nous aides à mieux comprendre qui est vraiment Jésus et ce que cela implique de le suivre comme disciple. Tu veux nous sauver du péché et de la mort, tu veux nous donner une vie nouvelle pour que nous puissions prendre un nouveau départ avec toi. Plusieurs parmi nous ont déjà fait ce choix il y a bien des années. Renouvelle nos forces, renouvelle notre relation avec toi. Renouvelle notre intelligence pour que ton esprit nous aide à comprendre mieux qui est Jésus et pouvoir te glorifier. plutôt que de regarder, en particulier dans les difficultés, ce que nous, nous sommes capables de faire ou pas. Et à ceux qui parmi nous n'ont pas encore une juste opinion du Seigneur Jésus, je te prie de les éclairer ce matin et tout au long de cette semaine, pour qu'ils puissent regarder à toi d'une manière nouvelle et changer de vie. Et c'est dans son nom, Jésus, que nous te prions. Amen.